parlez-moi d'IA.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison.
C'est une machine qui ressent les choses.
On nous raconte n'importe quoi sur l'IA.
Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit ?
Moi, je n'en dis rien du tout.
Que la créativité, elle reste du côté de l'humain.
Parlez-moi d'IA, présenté par Jean-Philippe Clément.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons évoquer le déploiement de l'IA en entreprise, ou plutôt la transformation induite par l'IA en entreprise, avec un spécialiste du sujet qui accompagne de nombreuses organisations et vient de publier un ouvrage de référence sur ce sujet. Alors, accordez-vous 30 minutes pour interroger une nouvelle fois ce que provoque l'irruption de l'intelligence artificielle dans nos vies.
Cause commune 93.1 FM.
Et vous êtes bien sur Cause Commune, la voix des communs, la voix des possibles. Vous nous écoutez toujours sur le web cause-commune.fm, au singulier bien sûr, sur notre app mobile iPhone et Android, sur la bande FM 93.1 et le DAB+, pour toute la France. Et bien sûr sur votre plateforme de podcast préférée. Merci monsieur Olivier Gréco, notre directeur d'antenne, de nous permettre cet espace de liberté et de nous proposer de si beaux outils de diffusion. Nous avons besoin de vous, chers auditeurices. Quelques petits gestes pour vous ont un impact énorme pour nous. Usez de vos super pouvoirs sur les plateformes, sur les réseaux. Abonnez-vous, commentez, partagez, likez. C'est notre seule récompense et cela nous fait connaître car ça manipule les algorithmes. Et...
c'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez Parlez-moi d'IA.
À ce micro, en matière d'intégration de l'IA dans les organisations, nous évoquons souvent les exemples et les stratégies des collectivités locales, avec leurs exigences de services publics et leurs objectifs vis-à-vis des usagers et des agents publics. Pour une fois, nous allons tourner la focale sur l'entreprise. Les promesses de l'IA pour la productivité des entreprises débordent de nombreux rapports et posts LinkedIn. Cela ne vient pas sans son cortège de peur et de méfiance. Mais qu'en est-il vraiment ? Comment concevoir une stratégie porteuse de valeur et mettre en œuvre un déploiement qui évite les écueils ? Vaste sujet, auquel notre invité du jour, spécialiste du numérique depuis plus de 20 ans, aujourd'hui directeur stratégie et innovation chez Orange Business, co-animateur du célèbre podcast Trench Tech, s'est attelé à un ouvrage qui s'appelle IA Mania, véritable guide du déploiement de l'IA en entreprise. Et je suis très heureux de le recevoir. Bonjour, Mick Lévy.
Bonjour.
Bienvenue dans le studio de Cause Commune.
Merci.
Merci d'être avec nous. Alors, parlez-moi d'IA, Mick. Et commençons tout de suite par évoquer en fait le malentendu originel de l'IA. Vous l'évoquez dès votre introduction. On n'aurait jamais dû appeler ces technologies intelligence artificielle. Pourquoi on a commis ce péché originel, comme vous dites ?
Alors attendez, Jean-Philippe, avant d'évoquer le péché originel dans l'introduction du livre, j'évoque autre chose, c'est le fait que je pratique le tutoiement radical.
Ah !
Donc je choisis de tutoyer tout le monde pour casser des barrières de conformisme et pouvoir avoir des discussions franches et directes le plus rapidement possible. Donc si ça vous va, on peut passer au tutoiement pour la suite.
Je vais essayer. J'ai préparé toute cette émission en pensant en vouvoiement. Mais voilà, peut-être que je vais vous voyer de temps en temps.
Bon.
Tu me corrigeras.
Oui, aucun problème. Alors, ce péché originel, effectivement, l'IA, on a l'impression que ça date de ChatGPT et que donc certains commencent à compter en IA-née, tu vois, plutôt que l'année de la naissance de Jésus-Christ. Ça y est, on peut compter en IA-née, l'année de la révélation de ChatGPT au grand public. Nous sommes donc dans l'IA-née numéro 4, finalement. Et en réalité, l'IA, ça date de 1950, des années 1950. Le terme a été inventé en 1956 par un grand chercheur américain qui s'appelle John McCarthy. Et une date qui a fait date, pour le coup, c'est le cas de le dire, lors d'une conférence à Dartmouth où il a proposé ce terme d'intelligence artificielle parce qu'il a dit plus tard, il avait besoin de fonds pour réaliser une étude universitaire d'été.
Donc déjà,
il s'est
dit, déjà, ils avaient besoin de fonds.
Il y a déjà eu un problème d'argent, tu vois. Il faut un terme qui claque là pour obtenir les fonds dont j'ai besoin. Alors bien vu, non seulement il a eu les fonds qu'il a besoin, mais 70 ans plus tard, on s'apprête à fêter les 70 ans de cette grande conférence de Dartmouth, et ben, le terme lui a survécu et véhicule avec lui plein de malentendus, plein de ce qu'on appelle l'anthropomorphisation. On parle d'intelligence alors que c'est un trait purement humain. On nomme les IA par des petits noms, voire des prénoms parfois pour certaines dans le grand public, ce qui leur donne aussi des traits humains. Et je crois que ça amène un malentendu extrêmement fort sur ce qu'est véritablement l'IA et ce qu'elle permet de faire. Le sujet clé de mon livre, c'est de sortir de la fascination pour entrer dans la transformation. Je crois que beaucoup trop de monde est encore fasciné par les capacités de l'IA. Le terme qui doit revenir le plus quand tu vois des publications, c'est de dire c'est bluffant. Bah ouais, c'est du bluff, au sens littéral du terme. Il faut sortir de cette fascination technologique, comprendre ce qu'il y a derrière, comprendre quelles en sont les limites et qu'est-ce qu'on peut en faire de véritablement utile.
Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet du livre, on va l'évoquer, on va le décortiquer, le livre, carrément. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur vous, sur votre pas, sur toi, sur ton parcours? C'est quoi ton cheminement jusqu'au digital service d'Orange Business? C'est quoi, en fait, moi aussi, je me pose la question de savoir c'est quoi le boulot du directeur de la stratégie et de l'innovation chez Orange Business.
Chez Orange Business. Alors écoute, moi je suis un monomaniaque de ce sujet de la data et de l'IA. J'ai fait mon stage de fin d'études dans une entreprise qui s'appelait Business et Décisions et qui accompagnait les entreprises, les collectivités dans tous leurs projets spécialisés en data et en IA. J'ai travaillé moi 25 ans, je suis un pur produit de cette entreprise et de ce secteur-là. J'ai commencé en 2001 quand les données n'étaient utilisées que pour faire du reporting, des KPI et encore on se demandait comment bien les faire pour améliorer les décisions de l'entreprise.
De la BI,
de la business intelligence exactement. Et puis avec l'intuition, tu vois que ça allait devenir quelque chose de plus en plus important. On le voyait bien avec Google, avec Facebook qui était en train de débarquer dans ces mêmes années. Et puis ben écoute, 25 ans plus tard, l'entreprise s'est fait racheter entre-temps Business et Décisions par Orange Business et donc moi j'y suis encore et Orange me donne l'opportunité de rencontrer une centaine d'entreprises par an. Je tiens des stats très précis sur ce sujet-là et depuis 4-5 ans, je suis à peu près à ça sur leur stratégie, sur leur projet en data en IA. J'anime par ailleurs une cinquantaine de conférences par an pour les entreprises, parfois pour le grand public et j'adore ça parce qu'il faut faire comprendre ce qu'il y a derrière l'IA encore une fois.
Et c'est pour ça que ton livre est bourré d'exemples, tirés des entreprises. En fait,
tu sais que c'est rigolo parce que, pardon, je te coupe, mais je me suis, en même temps que j'écrivais, cassé la tête pour me dire, mais s'il faut une IA pour écrire ce livre, ou pour l'écrire mieux que moi, ou peut-être que ce livre n'est plus utile parce que tu peux poser les questions à l'IA et retrouver ces éléments-là. Et en fait, je me suis fixé une ligne de conduite qui est de ne jamais utiliser l'IA pour la rédaction. Et que ce livre n'apportera de la valeur que s'il est empreint de mon expérience réelle, de mon vécu. Donc effectivement, il y a plein d'anecdotes, il y a plein de projet, de cas d'usage, et c'est issu d'une expérience vraiment terrain.
Si tu devais me résumer en fait l'objectif d'Yamania, alors Yamania c'est un titre fort quand même, les gens pourraient penser que voilà, on est dans la mania, on est dans le technosolutionnisme. C'est quoi l'objectif de ce livre finalement?
C'est justement tout l'inverse, il y a plein de manières de le voir ce titre. D'abord tu auras remarqué peut-être, ou nos auditeurs le voient pas, mais allez le voir, que le I est écrit en minuscule par rapport au A qui est écrit en majuscule à chaque fois que je parle d'IA. C'est une convention que je me suis donné pour montrer que l'intelligence en réalité est bien minuscule par rapport au caractère artificiel de l'IA et souligner que voilà, il y a une vraie différence entre l'intelligence artificielle qui est notable, qui apporte plein de choses, et l'intelligence humaine. Il ne faut pas les noter de la même manière. Et tout l'objet d'Yamania finalement, c'est de ça, arriver à faire sortir ce que je disais, les entreprises de la fascination, pour comprendre que le sujet de l'IA, c'est pas un sujet technologique, c'est un objet à part entière, c'est un objet sociétal à part entière. Et que si on veut en créer une valeur qui soit durable pour l'entreprise, il va falloir s'intéresser à cet objet sociétal dans son ensemble. Qu'est-ce que t'en fais d'un point de vue... Quelles sont les technologies sous-jacentes, effectivement? Mais qu'est-ce que t'en fais? Quel cas d'usage tu vas pouvoir développer? Comment tu transformes l'entreprise? Comment tu organises l'entreprise? Comment tu t'assures que les gains de productivité sont réellement transmis pour créer de la valeur? Comment tu formes? Comment t'accompagnes? Comment tu embarques avec toi alors que l'IA véhicule en même temps plein de peurs dans l'entreprise? C'est tout ça l'objet de ce livre.
Un vrai guide du chemin à parcourir pour arriver à déployer l'IA dans l'entreprise. J'ai bien aimé parce qu'en fait, notamment le début, je me suis dit, mais c'est toujours compliqué. Le début d'un bouquin, surtout sur l'IA, on ne sait jamais par quelle boule prendre parce qu'on se dit que l'audience, finalement, elle est divers, elle est variée. Il va falloir essayer de lui expliquer des éléments techniques, mais pas trop. Il va falloir la guider justement sur le chemin. Donc, c'est hyper casse-gueule. Et en fait, t'as super bien évité l'obstacle puisqu'en fait, tu commences par dire, bon, je vais vous redire un peu ce que c'est que l'IA. Et pour mieux vous le faire comprendre, je vais définir les quatre grands domaines de l'IA. Et en plus, c'est des domaines qui ont été développés chronologiquement pour vous faire comprendre les différents cas d'usage de ce qu'on appelle globalement l'IA.
J'ai la conviction que comprendre ce qu'est l'IA pour une entreprise, le mieux, c'est d'entrer par ses capacités. Qu'est-ce que tu peux en faire? Et ça, c'est aussi le point que je prends systématiquement sur les conférences que j'anime. Faut d'abord expliquer ce qu'on peut en faire.
Ouais.
Et donc, effectivement, quand tu cherches à faire un peu, à organiser les choses, et je crois que c'est important pour bien comprendre, t'as quatre grandes familles d'IA, t'as quatre grands domaines d'IA. D'abord, l'IA analytique, celle qui arrive en premier, que les entreprises pionnières connaissent très très bien depuis les années 2000 dans la banque, l'assurance, la distribution notamment.
Celle de la BI.
celle de la BI, mais qui peut aller plus loin, puisque tu vas chercher à modéliser des phénomènes complexes pour pouvoir ensuite les prédire, voire prescrire des actions pour qu'il se passe quelque chose de mieux. Mmh. Typiquement, un moteur de recommandation, quand on te dit « t'as acheté un livre de Marc Lévy, achète un livre de Guillaume Musso, ça va te plaire », on est venu modéliser un comportement d'achat chez les clients. On peut avec ça aussi parvenir à prédire quels sont les clients qui vont partir à la concurrence pour tenter de les retenir. On peut arriver à segmenter différents clients. On peut arriver à identifier des fuites d'eau, par exemple, pour des collectivités locales, c'est un grand classique, ou arriver à faire de la prédiction des quantités qu'il va falloir selon le menu du jour dans les cantines pour limiter les déchets. Voilà. Deuxième domaine, peut-être, je vais aller un peu plus vite si tu veux, c'est celui du perceptif. Donc, c'est là que l'IA perçoit son environnement. Ça a donné lieu notamment à tout ce qui est autour des véhicules autonomes ou à des contrôles automatisés sur des chaînes de production pour vérifier qu'il n'y a pas de fabrication qui soit défectueuse. On a ensuite l'IA générative. Voilà, que tout le monde connaît, que beaucoup utilisent déjà au quotidien avec toutes ses capacités.
Et qui arrive vraiment à la fin de cette histoire, finalement, enfin, assez récemment.
En fait, il faut comprendre que l'IA, ça s'est construit, c'est une lente évolution avec des grands à-coups. Donc, tu vois, t'as eu un énorme à-coup dans les années 2010 avec ce qu'on a appelé le deep learning qui a donné lieu à l'IA perceptive. Et puis, t'as eu un autre à-coup avec les Transformers qui a donné lieu à l'IA générative. Et là, on est en train de connaître à nouveau un nouvel à-coup qui est lui un peu différent autour de l'IA agentique, donc une IA qui va permettre de réaliser des actions directement.
Et ce que tu redis, c'est que finalement, l'IA agentique, c'est pas une IA en tant que telle, c'est plutôt l'orchestration de toutes ces IA potentielles, de tous ces outils potentiels qu'on peut mobiliser.
Exactement.
Comment tu vois l'IA agentique aujourd'hui, notamment en entreprise, parce qu'on en est au balbutiement. Il y a quand même peu d'exemples vraiment en production, mais il y a plein de perspectives potentielles et plein de promesses. Comment aujourd'hui on commence à envisager l'IA agentique dans les entreprises?
Alors, pour en donner d'abord peut-être une toute petite définition, oui. Finalement, les IA génératives, elles généraient, mais elles ne faisaient rien. Tu peux générer des mails, des comptes rendus, des trucs hyper complexes, mais elles ne font rien. Elles étaient incapables d'accomplir une quelconque action. Une IA agentique, on va lui donner un accès à des outils numériques, à des protocoles qui sont maintenant au point pour ça, pour que l'IA puisse aller écrire dans une base de données, puisse réaliser une commande, puisse faire un paiement, puisse négocier éventuellement avec une autre IA agentique aussi, etc. Donc on va passer, finalement il y a une grande promesse qui est attendue derrière, c'est une création de valeur directe. L'IA générative a essayé un peu déceptif quant à la valeur qu'elle a créée, puisqu'on comprend finalement qu'elle ne fait rien au bout de quelques temps.
Il faut un peu la pousser,
ouais. Et là, avec l'IA agentique, on va pouvoir lui faire faire des choses. C'est grâce au modèle de raisonnement donc qu'on a connu avec l'IA générative qui sont sortis il y a maintenant à peu près un an et demi. Globalement, c'était courant 2024 que ces modèles ont commencé à être au point. Et ces modèles de raisonnement qui vont permettre d'orchestrer, du coup, différents IA, différents modèles, différents types de modèles pour accomplir éventuellement jusqu'à des processus complexes de bout en bout. Et donc, il y a une promesse derrière qui est énorme. Les initiatives, tu as raison, sont vraiment balbutiante. Pour l'instant, les cas où on teste le passage à l'échelle, on se rend vite compte que, un, ça coûte très très cher,
oui,
suivant la manière dont on va le faire.
Ça demande beaucoup de ressources aux différents modèles.
Ça demande énormément de ressources, exactement. Ça fait énormément de consommation de tokens, pour dire le terme technique. Donc ça, c'est le premier frein pour l'instant. Et puis, on a du mal à maîtriser, c'est le deuxième frein principal, la fiabilité de ces IA, puisque les grands modèles d'IA continuent d'halluciner, continuent de faire des erreurs, il faut le dire. Donc, faire une erreur quand c'est dans un rapport qui t'a généré, bon, tu peux la corriger, ou alors ça passe parmi les X contenus.
Mais
quand c'est dans un processus, ça va te créer des erreurs en cascade, puisque l'autre IA qui va passer derrière va tirer parti de la première erreur, etc. Et ça peut t'amener à des grands problèmes. Un exemple parmi d'autres, AWS, il y a eu une grande panne sur la plaque chinoise au mois de décembre dernier. Après enquête, ils se sont rendu compte que c'était un de leurs agents d'IA qui avait purement et simplement supprimé un environnement. Et le problème en réalité derrière, c'est pas tant l'agent IA, ils le disent d'ailleurs à AWS eux-mêmes,
que
le manque de supervision, de gouvernance qu'il y avait autour de cet agent pour se rendre compte du problème avant.
Alors en entreprise, pareil, pour à la fois simplifier et puis que ça soit clair, tu considères que il y a finalement deux grandes valeurs, création de valeur à aller chercher.
Je suis content que tu poses la question parce que je pense que c'est une des idées à la fois les plus simples et vraiment clés de mon livre. C'est de dire, il y a deux manières de créer de la valeur avec les IA. La première, tout le monde est en train de tenter de le faire, c'est de l'IA pour rendre chaque personne plus performante. Donc tu déploies un outil, un ChatGPT privé, tu prends des licences de Copilot pour citer d'autres outils, de Claude ou de Live Intelligence d'Orange Business, puisqu'on a un outil qui fait ça admirablement chez Orange.
C'était une page de pub.
Ouais, j'en profite, hein, écoute, on n'est jamais aussi bien servi.
Non, dans une radio qui ne fait pas de pub, tu peux y aller.
Mais je t'ai cité 4 marques. Hein, donc... Bref, donc voilà, tu cherches à donner des super pouvoirs à chacun de tes collaborateurs et t'espères que chacun va gagner du temps et que le gain de temps de chacun va créer un gain de productivité globalement pour l'entreprise. Et on voit que c'est pas du tout aussi simple que ça en réalité. Et finalement, toutes les entreprises sont en train de chercher à faire ça. Bon, et je pense qu'il y a une deuxième voie qui va être beaucoup plus exigeante, mais beaucoup plus intéressante, qui est le fait de créer des IA qui vont créer une valeur à l'échelle. Là, on fait autre chose. On réfléchit pour créer un nouveau service, un nouveau produit, pour intégrer de l'IA dans nos produits existants, voire pour créer carrément un business model, se réinventer directement avec l'IA. Ça oblige à une transformation qui est beaucoup plus forte de l'entreprise. Mais là, on va avoir des gains qu'on va pouvoir, un, mesurer et qui vont être beaucoup plus forts. Et par ailleurs, qui vont nous donner un différenciant. Parce que finalement, donner un outil à chacun, dans 5 ans, retour à la case départ en termes de différenciant, c'est un peu comme d'avoir Excel, tu vois, ça a pris X années pour tout le monde ait Excel. Aujourd'hui, avoir Excel, tu serais mal si tu l'avais pas. Mmh. Ça va devenir aussi la base d'avoir un ChatGPT privé ou des accès à des IA pour chacun. Mais par contre, c'est pas le fait d'utiliser Excel qui te donne un différenciant ou un avantage concurrentiel. Je connais aucune boîte qui dit « moi j'ai un avantage concurrentiel parce que j'ai Excel ». Ça n'existe pas. Bon, maintenant, 5 ans avec l'IA, ça sera la même. Si on a travaillé que la case de l'IA pour la performance individuelle, on va pas créer d'avantage concurrentiel et on créera pas de différenciant ni de productivité finalement à l'échelle.
C'est le cœur du livre, hein, d'aller chercher cette valeur-là en fait, ouais. Et de donner des éléments de méthode pour aller la chercher. Et on va y revenir juste après. Moi, j'ai quelques questions quand même, parce que ici, on fait pas mal de points sur l'IA dans les collectivités locales, dans le secteur public, et avec plein de questions autour de l'open source, autour de justement d'aller chercher un petit peu de la souveraineté, d'aller chercher des manières frugales aussi de monter des IA. Comment tu vois ça dans l'entreprise, finalement? C'est-à-dire que, est-ce que, par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui sont intéressées par des modèles open source, voire même hébergés en interne, où ils restent quand même fondamentalement tourné vers des gros modèles fondationnels commerciaux, type GPT, type Cloud. Est-ce qu'elles sont intéressées par l'open source?
Écoute, c'est un point qui me tient d'abord énormément à cœur. Donc moi, je porte de manière extrêmement régulière. Il faut différencier les usages. Sur les usages d'IA du quotidien, donc de performance individuelle, donner un outil à tous les collaborateurs, ça va être très difficile.
Ouais.
Ça viendra peut-être, mais... Aujourd'hui, il faut pas se leurrer, c'est très difficile puisque tu vas avoir une diversité d'usages, une diversité de questions, d'interprétation de documents, etc., qui fait que c'est difficile de se passer d'un très grand modèle qui sait tout faire.
Ouais.
Par contre, sur tous les usages de créateurs de valeur à l'échelle, où tu vas chercher à faire une IA pour optimiser ton stock,
un cas d'usage précis.
Là, il va falloir que tu sois plus fiable et que tu aies des IA qui soient extrêmement fiables. Il va falloir qu'elles te coûtent le moins cher parce que cet usage, tu vas le répéter des dizaines de milliers, des centaines de milliers, peut-être des millions de fois. Donc, à l'inférence, il faut que ça te coûte extrêmement peu cher. Et puis, de te dire aussi, bon, bah là, il faut que le modèle, en plus, consomme le moins possible et que je le maîtrise moi-même le mieux possible. Et pour ces usages-là, oui, on va les regarder, même de l'IA sur mesure, pourquoi pas, faire nos propres modèles pour bien modéliser un comportement, un phénomène, etc. Et puis, on va aller chercher, pourquoi pas, effectivement, de l'open source, de l'hébergement local pour l'entreprise elle-même, voire sur des clouds sécurisés, privés ou souverains, etc. etc.
Et tu dis d'ailleurs que tu n'es pas obligé, dans ces cas-là, d'utiliser des large language models. On peut faire plus frugal, on peut faire plus petit, parce que justement, c'est spécialisé.
Exactement. C'est même pas souhaitable d'aller sur des grands modèles pour faire ce type d'usage. Ils sont moins fiables, ils sont moins performants et ils prennent beaucoup plus de ressources et donc coûtent plus cher.
Bon, je laisserai les auditeurs, lecteurs, du coup, découvrir aussi comment tu abordes finalement tous les risques. Parce qu'en fait, tu parles aussi de beaucoup des risques. Peut-être quand même aborder celui autour de l'emploi. Tu débunkes. En fait, ce sujet de l'IA qui vient remplacer les emplois dans le livre, comment tu pourrais aujourd'hui, comment tu fais d'ailleurs dans les conférences que tu fais en entreprise, pour rassurer finalement les employés en leur disant « Non, mais attendez, arrêtez de croire ce que les grands titres vous disent, ça va pas venir vous remplacer, d'ailleurs parce que... »
Alors parce que, un, il y a cette crainte depuis toujours. J'ai ressorti des articles de presse qui ont 100 ans.
Oui, c'est vrai.
Qui ont 100 ans. Et tu changes le mot machine, parce que c'était le moment de l'industrialisation, par le mot IA, et tu fais exactement le même article. Ouais. C'est vraiment marquant. 1960, c'est mon préféré, tu as eu une manif des profs de maths qui se sont associés aux comptables, qui faisaient des manifs contre les calculettes.
Ouais, ça, elle est bien.
Tu vois le truc avec les profs de maths qui disaient on va créer une génération de mecs qui ne sauront même plus compter, et les comptables de dire mais vous avez tous tué notre emploi avec la calculette. Voilà, c'est... Donc cette peur, elle est ancrée depuis toujours. Alors, je pourrais t'en parler pendant une heure, mais je crois qu'on n'a pas une heure, donc je vais aller, je vais la prendre courte. Un, les économistes sont pas tous d'accord ensemble. Alors, c'est peut-être mon caractère optimiste. Moi, j'ai plutôt envie d'écouter les plus optimistes. Ceux qui travaillent le plus sur les sujets d'innovation, comme Philippe Aguillon, qui a eu un prix Nobel d'économie, lui dit que à chaque fois que tu innoves, que tu gagnes en productivité, même fortement, ça va te permettre de faire d'autres choses, donc de créer de la valeur, donc d'avoir besoin de plus de personnes in fine. Et dernier point, et je pense que c'est le fond du problème, les médias et beaucoup de personnes ont tendance à avoir une vision trop technocentrée. On s'intéresse à la technologie, c'est là qu'elle fascine. On écoute les grands de la tech nous raconter parfois leurs fables.
Ouais.
Et du coup, on ne voit que ça. Mais le sujet de l'emploi, il y a 10 000 paramètres en plus de celui de la techno, à commencer par un paramètre qui ne devrait pourtant échapper à personne, celui de la démographie. On est arrivé au moment, on est en train d'arriver au moment où on va commencer à avoir une décroissance du nombre des actifs. Et ça va s'accélérer très fortement. Et un rapport du Haut Commissariat au Plan montre que même si on a 150 000 immigrés, on va pas avoir assez de personnes à l'horizon 2040. Et sur le sujet de l'emploi, dans ce rapport-là, je crois que l'IA n'est même pas citée.
Ah oui.
Donc, quand on prend d'autres angles que l'angle uniquement technocentré, on se rend compte que l'IA est un paramètre parmi d'autres dans le grand sujet de l'emploi et que c'est pas du tout aussi simple que ça.
Et alors, c'est marrant parce que quand tu évoques la construction d'une stratégie IA pour l'entreprise, d'ailleurs, tu reprends les 6 dimensions négatives repérées dans le rapport Laboria Explorer. On va pas les citer là, mais bon, fragilisation de la reconnaissance au travail, sentiment de dépossession provoqué par l'IA et de dépossession et de savoir-faire. Enfin, tout ce que l'IA finalement va avoir comme mauvaise conséquence sur l'employé. Et tu dis, en fait, construisez votre stratégie en miroir positif de tout ça. Et faites attention effectivement à ces 6 dimensions, mais construisez aussi votre stratégie au regard de ça et pour vos employés.
Exactement. En fait, je ne crains pas l'impact sur l'emploi au sens, tu vois, ça va tuer de l'emploi de manière massive. Honnêtement, je n'y crois pas beaucoup. Je te le redis. Par contre, j'ai une certitude, c'est que le rapport au travail va énormément changer. La modalité, la façon dont on travaille pour énormément de postes va beaucoup changer. Et d'ailleurs, c'est déjà à l'œuvre. Il va falloir effectivement prendre attention à comment ça impacte les choses. Et moi, je suis assez sidéré du faible nombre de décideurs, parfois même de RH, parfois même de personnes dans les représentants du personnel, les syndicats, etc., qui ont conscience de ça. Et si on n'en a pas conscience, juste on va se laisser aller par le flot. Et un beau matin, on va se réveiller en se disant « Putain, tout a changé, c'était mieux il y a 10 ans, la manière dont on travaillait. Ben, » ouais, mais il va pas falloir lâcher la barque. Je te donne juste quelques petits exemples, anecdotes, parce que c'est par les anecdotes qu'on le sent le mieux. J'anime chez Orange un grand call au moment du lancement d'une nouvelle offre. J'ai 150 commerciaux chez Orange. Il y a du monde, tu vois, pour expliquer cette nouvelle offre sur une visio. Et puis là, il y a quelqu'un qui me dit « Mick, désolé, je peux pas rester, mais t'inquiète pas, je t'envoie mon IA à ma place, elle me fera le résumé. » Et là, je me suis dit « Mais merde,
oui.
Qu'est-ce qu'on va faire des moments collectifs ?» Et après, je me suis dit « Mais elle a raison. À quoi sert ma réunion descendante pour 150 personnes où tu ne vis même pas une expérience, on est tous derrière Teams, si tu peux le récupérer avec une IA ?» Donc, il y a des modalités, tu vois, du collectif, par exemple, qui vont devoir changer. Et puis, tu vois aussi d'autres comportements. À l'inverse, lors d'entretiens de recrutement, ça, j'ai entendu chez un client ou une RH qui me reporte qu'il y a quelqu'un qui n'a pas voulu prendre le poste parce qu'il n'y avait pas d'IA dans l'entreprise.
Ah oui.
Et donc, ça, c'est plutôt dans les jeunes générations qui sont très habituées à travailler avec de l'IA dans leurs études et qui ne peuvent pas imaginer ne pas avoir accès à de l'IA quand elles viennent travailler dans l'entreprise.
Et pour les employés qui y sont déjà, comment on les emmène vers l'IA ?
Comment on les emmène vers l'IA ? Alors ça, c'est une énorme question que tout le monde me pose à chaque fois, notamment sur les conférences, c'est souvent un des enjeux clés. En fait, tu repères qu'il y a plusieurs profils. Tu as des gens qui adorent, qui s'y sont mis par eux-mêmes, quitte à employer des outils qui sont pas ceux de l'entreprise et à faire courir un risque d'ailleurs
shadow,
à l'entreprise voilà, autour du Shadow AI. Et puis à l'autre bout de la chaîne, tu as ceux qui rejettent complètement l'IA. Alors moi, je pense qu'il va falloir faire énormément de pédagogie. Je pense qu'il va falloir faire beaucoup d'acculturation, et j'adore ce mot, et il faut le prendre à mon avis au sens premier du terme, c'est-à-dire de changer la culture. L'acculturation, on entend souvent de la formation derrière. Non, non, c'est un changement profond, c'est un changement de culture. Donc ça va pas se faire en une seule fois avec une conférence ou un atelier ou autre. Il va falloir peu à peu embarquer chacun et par plein de dispositifs différents, des formations, des conférences, des ateliers, du coaching peut-être, des clubs où entre utilisateurs ils commencent à se parler de qu'est-ce qu'ils en ont fait, des moyens dans les outils aussi qui vont permettre de partager certains prompts, certains agents qui ont été réalisés à un endroit pour qu'ils puissent être utilisés par d'autres. Voilà, c'est tout ça qui va faire que peu à peu toute l'entreprise va s'y mettre.
Tu as vu ce nouveau... Je suis complètement d'accord avec toi, mais en même temps, tu as vu ce nouveau phénomène des grands pontes de l'IA qui viennent devant des universités américaines, ouais, qui commencent à leur vendre un avenir IA, qui commencent à leur vendre beaucoup de choses en termes d'IA et qui se font siffler. Et est-ce qu'il n'y a pas quand même, malgré tout, quand c'est pas concret, quand c'est pas raccroché à quelque chose, un risque d'IA bashing assez fort qui va commencer par les étudiants, mais qui peut-être pourrait, si c'est mal maîtrisé, gagner aussi les entreprises. Comment on
peut... C'est un phénomène que j'adore. Et il y a 10 ans déjà, j'avais créé une des conférences que j'animais était là-dessus sur les rebelles de l'IA, tu vois. Et effectivement, plus l'IA se déploie, plus on est en train d'en avoir. Et puis alors, tu parlais des exemples, voilà, avec le CEO de Google qui s'est fait huer par des étudiants. Mais il y a aussi des attaques de data center. Oui. Il y a aussi la tentative d'incendie du domicile de Sam Altman, le patron d'OpenAI. Donc il y a un vrai vent de révolte et d'anti-IA qui est en train de se structurer un petit peu, qui est extrêmement fort. Et pour le coup, on peut les comprendre, parce qu'il faut absolument pas nier tous les éléments absolument négatifs qui accompagnent le développement de l'IA, le déploiement de l'IA tel qu'il est fait aujourd'hui par les géants de la tech.
C'est ça.
Je pense notamment à l'impact environnemental qui est juste énorme et dont il faut bien dire qu'ils se contrefoutent un petit peu pour te la jouer courte. Il y a le chiffon rouge de l'emploi que eux-mêmes ont agité pour faire peur, pour alimenter la fascination. Ça a tellement bien marché que du coup il y a plein de monde qui y croit. Donc évidemment les étudiants ils rejettent ça massivement puisqu'ils disent c'est en train de prendre notre job, donc t'es bien gentil, mais
tu
voilà.
Tu parles d'avenir, mais visiblement, en même temps, tu c'est me dis qu'il n'y en a plus beaucoup.
Je le redis, je pense que c'est pas autant fondé qu'on nous le vend, mais toujours est-il qu'ils l'ont beaucoup agité. Il y a toute l'exploitation de ce qu'on appelle les data workers, donc c'est des personnes, notamment dans le sud global, qui se chiffrent par millions de personnes, certainement, qui sont payées une misère pour finalement se retrouver à entraîner des IA dans des conditions psychologiques qui sont absolument abominable, ils se payent toute la journée, tu vois, des vidéos et des textes extrêmement choquants pour pouvoir les trier pour l'IA, en fait. Donc, ça aussi, c'est connu, quelque part, c'est trop peu connu, justement, mais la tech n'a finalement rien à envier, tu vois, l'industrie du textile, par exemple,
L'entreprise, dans sa stratégie, doit aussi prendre en compte ces questions-là et doit montrer qu'elle les traite aussi dans la stratégie.
Ah, mais c'est une de mes grandes convictions, et c'est pour ça que tu l'as dit, il y a une des parties complètes du livre, je pense, d'ailleurs, c'est la plus grande partie en nombre de pages, qui traite des risques et des impacts sociétaux et que je raccroche à chaque fois au monde de l'entreprise. Tous ces éléments-là ont des impacts sur la façon dont on le déploie dans l'entreprise. Il faut absolument en avoir conscience.
Bon, et tout le livre, effectivement, donne aussi beaucoup d'éléments méthodologiques pour s'y mettre, pour avancer avec beaucoup de schémas, beaucoup de matrices, beaucoup de templates aussi pour se mettre le pied à l'étrier. Comment on fait pour à la fois monter une stratégie tout en se disant bon, ça va encore changer dans les 6 prochains mois? Comment on s'adapte à ça? Comment on est résilient finalement aux évolutions?
Alors tout ne va pas changer, effectivement, j'explique que la stratégie IA doit se construire en six piliers. Le patrimoine data, on est vraiment les fondamentaux, tu vois. Et puis il y a quatre autres piliers qui sont les usages, qui sont la responsabilité, notamment sociétale, qui sont la transformation de l'entreprise et de sa culture, finalement, la technologie, qui est un pilier parmi d'autres, et puis la façon dont on va exécuter, diffuser cette stratégie d'IA. Donc, il faut se donner un cap en définissant cette stratégie. Par contre, le mot stratégie peut être super impressionnant, mais il faut absolument pas faire une stratégie pour les 3-5 ans à venir, comme on a pu le faire dans des entreprises parfois. Il faut se donner un cap, une vision, et accepter que cette stratégie va être constamment revisitée. C'est absolument pas un point d'arrêt. C'est une feuille de route qu'on fait évoluer en chemin, tu vois, un peu comme avec un GPS très très dynamique qui change en fonction des conditions de circulation et qui te fait finalement emprunter une autre route. Et puis voire même, tu peux changer la destination en cours de route parce que tu te dis, tiens, je vais plutôt aller à point B plutôt qu'à un point A, ça a l'air beaucoup plus sympa.
Donc il va falloir que nos auditeuristes deviennent aussi lecteuristes, tu as raison, pour finalement aller plus loin que ce survol. On a vu la richesse de ce livre et des éléments qu'il partage. Merci beaucoup pour ce partage rapide en une demi-heure.
Merci Jean-Philippe.
On rappelle que le livre s'appelle IA Mania et qu'il est aux éditions Vuibert. Merci à vous, chers auditeurs. C'est cette émission. Si cette émission vous a plu, usez de votre grand pouvoir, likez cet épisode et manipulez les algorithmes pour nous aider à diffuser ce contenu plus loin. Restez sur 93.1 FM, sur Cause Commune, et on se dit à bientôt.